Et il y avait vraiment de la joie. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, bon, ça fait la deuxième année où on va à Pontivy. La première année, on sentait qu'il y avait un climat un petit peu de retenue, de défiance. Les gens se demandaient ce qui se passait. Mais cette année ici, là, maintenant qu'on a été hier, je trouvais des gens qui venaient avec le cœur ouvert. Ils venaient avec leurs enfants. Mais quand on les abordait, ils étaient détendus, ils étaient souriants, ils n'avaient pas peur de discuter, d'entrer en relation. Et je pense que ça, c'est l'impact de la prière de l'Église sur la cité. C'est le fait d'avoir persévéré dans la prière, d'avoir persévéré aussi dans l'action, de ne pas s'être laissé dépouiller et décourager. Et je crois que ça, c'est vraiment important. Alors ce matin, ce que j'avais envie de vous partager, c'est justement sur comment impacter nos villes, comment impacter nos voisins, comment impacter nos régions, comment impacter notre nation pour le meilleur. Et c'est vrai qu'actuellement, vu l'état de crise économique, sociale, politique qu'on traverse, c'est important que l'Église relève la tête et qu'elle commence à voir ce que Dieu voit. Et quand Dieu dit « stop à la pluie », il dit « stop à la pluie ». Et quand Dieu dit « vas-y », même si tu trouves que le sol est mouillé encore, tu avances et tu crées un espace de liberté, un espace de joie, un espace de gloire. Et les gens sont impactés par ça. Et quand tu vas au travail, si tu vas comme si tu allais chez le dentiste, tes collègues de travail qui te disent « ah oui, comment vas-tu ? » « Oh, comme un lundi !» Effectivement, tu vas amener que ton humanité, tes soupirs, ta tristesse. Mais si dès le matin, tu commences à voir que c'est Dieu qui a créé ce jour et qu'il est pour toi un sujet de joie, à ce moment-là, tu renverses les desseins du diable. Tu amènes sur ta journée la pensée de l'éternité de Dieu. Tu amènes la gloire de Dieu parce que tu as réglé ta norme de la journée à la dimension du ciel. Et ce qui est important, c'est qu'on amène la dimension du ciel sur la terre. Et c'est un peu ce que je voudrais qu'on vive en ce moment, c'est qu'on travaille notre communion spirituelle, les uns les autres, avec le Seigneur d'abord, et puis les uns les autres, ensemble. Parce que Jésus a envoyé toujours ses disciples deux à deux. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est équipé de la communion spirituelle, eh bien, on a de la force. Celui qui veut nous garder dans l'isolement, c'est le diable. On va le voir. C'est le diable qui veut toujours nous mettre dans la solitude, nous faire croire qu'on va être écrasé par les épreuves qui sont autour de nous. Mais ce n'est pas du tout ce que l'Évangile dit. L'Évangile dit eh bien, que Jésus va écraser Satan sous nos pieds. Amen. Amen. Et il est grand temps qu'on prenne les lunettes spirituelles que Dieu a pour commencer à vivre chaque jour. Amen. Alors tu te tournes vers ton voisin, tu dis, c'est une merveilleuse journée de gloire que Dieu t'a fait cadeau. Voilà. Et tu rajoutes maintenant à ton voisin ou ta voisine, est-ce que tu reçois le cadeau de gloire ? Ça change l'atmosphère. Ça vous permet d'être placé sur un pied de force, sur un pied de gloire. Je me rappelle, il y a des matinées, j'allais au travail en disant « Ah, je vais travailler avec celui-là, pitié Seigneur, ça va être une journée épouvantable. » À qui je donnais les clés de ma journée ? J'ai donné au découragement, j'ai donné au diable. Et puis le Seigneur me disait, mais relève la tête. Alors j'étais derrière le volant de ma voiture. Je relève la tête et qu'est-ce que je vois ? Le lever du soleil. Oh, je dis, Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu règnes. Amen. Là, je redonnais les clés de ma journée au Seigneur. Et soit on a toujours cette liberté, à qui tu donnes les clés de ta journée. On a toujours le choix. Et le diable, il mettra toujours des choses de découragement devant toi. Et le Seigneur, il mettra toujours des choses de gloire. Amen. Parce que le Seigneur, il n'est pas là pour nous enfoncer sous terre, il est là pour nous élever auprès du Père. Et qu'est-ce que le Papa Céleste, il fait? Il ouvre ses bras et il dit, « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. » Parce que qu'est-ce qu'il voit dans nos vies? Il voit l'amour de Jésus qui nous a rachetés, qui nous a lavés, qui nous a nourris, qui nous a fortifiés. Tu es venu prendre la Sainte Cène, tu t'es purifié par le sang de l'agneau. Quand tu bois la coupe, tu es lavé par le sang de l'agneau. Parce que c'est un acte volontaire, c'est un acte réfléchi. Tu viens prendre le sang de l'agneau à la table, tu dis, « Seigneur, moi je prends toujours le vin avant le pain, je vous dis mon petit secret. » Je dis, « Je prends le vin parce que, Seigneur, eh bien j'ai besoin d'être lavé par la puissance de ton sang. » Et souvent je dis, je pense cette parole, dis une seule parole, et je serai guéri, racheté, lavé. Et je sais que tu le fais, Seigneur, parce que quand j'élève cette coupe de bénédiction, je te rends gloire. J'entre dans ta victoire. J'entre dans ta victoire. Et après, je peux prendre le pain parce que je dis, mais j'appartiens à ce Jésus. Et en même temps que mes frères, eh bien, on est tous ensemble un seul corps. Oui. Amen. Je suis un bout du corps de Damien, qui est un bout de mon corps, qui est un bout de Régis, qui est un bout de François, et tout ça. Et ensemble, on a une puissance et une autorité. Et c'est ça qu'il faut qu'on se rende compte, c'est qu'on a une autorité. Il faut qu'on travaille à notre communion spirituelle. L'Ancien Testament est le reflet du Nouveau Testament, mais encore un peu dans l'ombre. Mais les révélations qui nous est dit, hein, on sait, 1 Chronique 7, 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se repent, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Son pays, je guérirai. Amen. Son péché, j'effacerai. Amen. Je le relèverai. » Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être son peuple. Il faut travailler dans la communion. Il faut que personne ne reste seul. Il faut qu'on travaille à s'aimer les uns les autres. Pourquoi Jésus nous exhortait? Pourquoi les apôtres nous exhortaient? Aimez-vous les uns les autres. Parce qu'il voulait qu'on soit un seul corps, qu'on ne soit pas isolé. Et il veut aussi qu'on pose un autel d'adoration dans la ville, dans la cité, pour qu'on puisse s'y retrouver. Hier, quand on était sous la pluie, quand on était sous les cieux, on a ouvert un espace spirituel pour qu'il ne pleuve pas, que les gens qui viennent soient saisis, investis par l'onction de joie qui régnait là et qui était le cadeau d'une église qui venait dire « On partage notre joie, notre vie avec vous, avec vos enfants, pour vous bénir. » Et Dieu a honoré ça, Dieu a respecté ça, et Dieu a impacté cet endroit dans ce parc. Il pouvait pleuvoir à côté, ailleurs, on ne savait pas trop où il pleuvait. Et le diable pouvait nous intimider en envoyant une petite drache de 2 minutes de temps en temps, et je voyais que mon Samuel, il était là, tout souriant, avec son chapeau, il avait un chapeau, il était rusé. Et puis, pareil, pour chacun d'entre nous, pour Nicolas qui était sous les déguisements, et pour tous ceux qui faisaient des ballons, parce que tu faisais des ballons encore une fois, hein, Michel faisait les ballons, etc. Mais on ne faisait pas des choses extraordinaires, mais on véhiculait l'esprit de gloire. Et ça, c'est important que vous vous rendiez compte que vous êtes un temple du Saint-Esprit ambulant. Et que ce qui sort de vous, c'est la gloire de Dieu. Mais ce qui sort de vous, la gloire de Dieu, c'est seulement si vous ouvrez les portes à l'action du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais vous partager un verset dans Actes des Apôtres. Je vous lis, c'est une prophétie qui parle de la tente de David. Après cela, je reviendrai, je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Ainsi, toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses et à qui elles seront connues de toute éternité. Il y a quelque chose que l'Église a à relever aujourd'hui. C'est une tente d'adoration. C'est Actes 15, 16 à 18. Eh bien, c'est une louange permanente à Dieu, c'est-à-dire l'entretien d'une communion spirituelle puissante les uns avec les autres. Vous savez, souvent, on pense que la louange, c'est seulement les instruments de musique, mais la louange, c'est ta voix. La louange, c'est ta danse. La louange, c'est quand tu reçois un chant de musique que Damien envoie en disant « Voilà, j'ai reçu ce chant pour la journée. » Alors tu l'écoutes et puis tu participes à la joie de Damien. Et ce n'est pas seulement à la joie de Damien, c'est à la joie que le Seigneur a mis dans son cœur. Il y a une communion spirituelle et il y a une victoire de Dieu sur nos vies. Il y a quelque chose qui vient. Vous savez, il y a une confrontation de royaumes sur la terre en ce moment, entre le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Il y a une guerre spirituelle. Je vais juste vous lire dans Actes 26, les versets 17 et 18. C'est Dieu qui parle, il dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu ouvres les yeux pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alors mes amis, il y a le pardon des péchés, on a reçu, mais on a un héritage. C'est quoi l'héritage de Dieu pour nous? Il existe déjà sur la terre. L'héritage de Dieu, ça va être l'impact de gloire qu'on va mettre sur la terre, dans le cœur de la cité, dans le cœur de nos voisins, dans le cœur de nos familles. Tout ce qu'on va pouvoir libérer de la gloire de Dieu. Vous savez, on ne se rend pas compte. Moi, je vois, quand je vais dans les cliniques visiter les malades, souvent j'ai l'impression que mon ventre, mon nombril, c'est un projecteur. Il éclaire devant moi. Et ça, c'est bien. Je grimpe dans l'ascenseur, ça éclaire dans l'ascenseur. Et comme dans les ascenseurs en face de moi, j'ai souvent une glace, je suis ébloui par la gloire de Dieu, parce que le Saint-Esprit veut sortir de moi. Il veut parler aux malades, il veut guérir les malades, il veut consoler les cœurs, il veut toucher les gens qui sont découragés, il veut relever leur tête. Et quand j'entre dans le couloir, après, la gloire de Dieu va dans le couloir. Ça veut dire que les ténèbres sont dissipées. Quand tu rentres dans le milieu où tu travailles, les ténèbres qui étaient là, le découragement, la sueur, la malédiction, tout ça s'est dissipé parce que le Saint-Esprit qui habite en toi est plus puissant que les œuvres des ténèbres. C'est pas vrai, Joao? Quand tu chantes un cantique dans le travail, qu'est-ce qui se passe? La joie. Amen. Et les collègues de travail, quand Joao il n'est pas au travail, ils disent « Mais où il est, Joao ?» C'est lui qui nous apporte la joie. Mais ça, c'est important. Vous êtes des lumières et vous êtes des révélations de l'amour de Jésus, les uns les autres. Amen. Amen. Mais pour ça, il faut qu'on soit fortifié. Alors, on va essayer de prendre un petit bout de message qui se situe vers la fin. Ce qui est important, comment David... Le roi David, qu'est-ce qu'il a fait pour que la nation, Jérusalem, soit puissante, soit délivrée de ses ennemis? La première chose qu'il a fait, c'est de ramener la présence de Dieu dans la cité. Et une des choses qu'il a faites, ça a été de ramener l'Arche de l'Alliance, qui est elle, vraiment la présence de Dieu, la sainte présence de Dieu. L'Arche de l'Alliance, c'est ce qui a conduit le peuple hébreu dans le désert pendant 40 ans. Il y avait une colonne de nuée le jour et une colonne de feu au-dessus de l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance, qui était vraiment la présence même de Dieu. Dedans, il y avait les tables de la loi, il y avait la manne, et puis il y avait quoi ? Le bâton d'Aaron, bâton d'autorité, sur lequel il y avait des fleurs, il y avait des feuilles, des fleurs et des amandes. Les trois choses étaient sur ce bâton. Mes amis, Dieu vous a donné un bâton d'autorité dans votre vie pour que vous exerciez la présence de Dieu partout où vous êtes. Mais pour que ce bâton soit rempli de l'autorité de Dieu, il faut que vous mangiez la manne. Il faut que cette manne, c'est-à-dire la communion spirituelle que vous entretenez les uns avec les autres, quand vous venez à la table de la Sainte Cène, eh bien vous êtes en train de recharger les accus avec le Seigneur et vous êtes en train de recharger les accus avec vos frères et sœurs. Quand on loue le Seigneur, eh bien on est en train de créer une spirale de gloire. Vous savez, en ce moment, les météorologues, ils nous parlent des tornades, là, en disant, entre l'air chaud et l'air froid, il se passe des trucs, il y a des décharges électriques, et d'un seul coup, tout est balayé. Eh bien, quand nous, on est en train de louer le Seigneur ensemble, on est en train de créer une tornade de la gloire de Dieu. Et ça impacte la terre. Mais on ne s'en rend pas compte. Il faut que le Seigneur ouvre nos yeux. Il faut que le Seigneur ouvre nos yeux. Et c'est vraiment important qu'on saisisse que Dieu nous a donné des armes dans la communion spirituelle, dans la louange, dans la lecture de la parole, dans l'autorité qu'il nous a conférée. Et ça, c'est vraiment important. Le diable, il essaye toujours de nous détourner. Et ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Et je vous lis un verset dans Éphésiens que j'ai pris. « Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. » Alors, je vais lire tout le verset, comme ça vous aurez le contexte. « Prenez donc garde de vous conduire avec attention, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ah, on s'y retrouve, c'est les actualités. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça veut dire quels sont les plans de Dieu pour maintenant. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. L'apôtre y finit par « vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Ça veut dire vous vivez ces choses-là, mais vous ne les vivez pas tout seul. Vous les vivez en communion avec les autres. Et ça veut dire que, vous savez, être en communion avec les autres, c'est comme au jardin d'Éden. Comment étaient Adam et Ève dans le jardin d'Éden, avant la chute ? Ils étaient nus. Voilà. Ils n'avaient pas peur d'être eux-mêmes tels qu'ils étaient et ils n'en souffraient pas. Et c'est vrai que dans la communion spirituelle, il y a un certain dépouillement. On est obligé d'être vrai. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je marche dans la vérité avec mon frère ou avec ma sœur. Si j'ai besoin de prière, je vais lui dire, ah, j'ai besoin d'être encouragé, j'ai besoin que tu viennes avec moi, j'ai besoin que tu pries pour moi. C'est vrai. J'ai besoin que tu mettes sur moi la bénédiction de Dieu, parce que je veux être propulsé dans ma journée dans le plan de Dieu, dans la gloire de Dieu. Et quand on sait qu'on a quelqu'un qui prie pour nous, alors on est ravigoré. Amen. Pas vrai, Madalena? Bon, amen. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, qu'est-ce que David y fait? Il ramène l'Arche de l'Alliance dans Jérusalem. Il ramène la présence de Dieu dans Jérusalem. On ne va pas prendre les détails de ça, puisqu'il y a eu deux essais. Et puis, mais on ne va pas parler de ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a toute une préparation. David se bâtit des maisons dans la cité de David, mais il prépara une place à l'arche de Dieu et il dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit pas être port doit être, ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Alliance à la place qu'il lui avait préparée. Il y a une place pour Dieu dans vos vies. Il y a une place spécifique pour Dieu dans vos vies. Et c'est chaque jour que cette place doit être renouvelée. Et cette place, c'est dès le matin, dès l'aurore. Seigneur, je réveille ta présence sur le temple que je suis pour amener, ouvrir les portes du temple à ta gloire. Je veux que tu m'investisses de ta paix, de ta joie, de ta force. Et ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de volonté. Je marche. C'est comme nous. Hier, on a été en voiture jusqu'à Pontivy. Il a plu. À un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va aller faire à Pontivy? Sous la flotte. Je me suis dit, mais ça fait rien. Même s'il pleut pendant le festival, ben, on pourra louer le Seigneur. Et quelque part, on se met en marche, même si les circonstances extérieures nous disent, reste tranquille, bouge plus. Le diable, il aime ça, il dit, bouge plus. Mais l'Esprit de Dieu nous dit, avance en pleine eau. Jette le filet. T'as rien pris cette nuit, mais c'est maintenant le jour de gloire. C'est maintenant. Mais il faut que tu obéisses, malgré les circonstances. Et qu'est-ce qui se passe pour David? Il a préparé la tente pour Dieu et il met en ordre, il organise un petit peu les choses telles qu'elles doivent se faire dans le plan de Dieu. Et les choses telles qu'elles devaient se faire, c'était d'appeler les sacrificateurs et les Lévites pour qu'ils portent l'arche. Personne d'autre devait toucher l'arche. C'était eux qui portaient. Et les autres y regardaient. Mais les autres, en regardant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient le Seigneur. Et David, qu'est-ce qu'il faisait devant l'arche? Il dansait. Amen. Donc je sais qu'ici, on n'est pas très dense. Hein, on a un peu de mal à se libérer, hein, c'est vrai. Ah, amen, tu vois. Moi aussi, j'ai l'impression d'être un hippopotame quand je danse. Mais regarde un hippopotame dans l'eau, il est extraordinaire. Il est souple. Alors quand l'eau de l'esprit monte, quand l'eau de l'esprit monte, tu es dans l'eau du Saint-Esprit, il faut commencer à libérer la danse. C'est des choses qui sont simples. Mais elles sont tellement vraies. Un enfant, quand il se réjouit, hop, il saute de joie. Hein? Eh bien, nous, on doit commencer à rentrer dans cette nouvelle dimension. Alors, c'est vrai que il faut faire avec notre tempérament. Mais il faut faire des efforts quand même. Parce que ces choses-là, il faut les amener à la liberté. J'avais rencontré un prédicateur, vraiment un apôtre. Et puis, quand il y avait l'onction du Saint-Esprit dans des moments, tout le monde rigolait. Alors, j'ai été le trouver, je lui ai dit, mais alors toi, quand il y a l'onction, qu'est-ce que tu fais? C'était un Anglais. Il dit, moi, je souris. Il était avec son tempérament. Mais quelque part, ça faisait bouger au moins sa bouche. Il faut qu'on arrive petit à petit à rentrer dans la liberté du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est important. Préparer la place pour Dieu, être à la place où Dieu veut qu'on soit. Donc les sacrificateurs y portaient l'arche. Et puis 1 Chronique 16, 7 nous dit « Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. » Qu'est-ce qui se passe? Il y avait un certain Asaph avec ses frères, la famille d'Asaph. Les Asaph-loueurs, on les appellerait, qui ont été chargés de louer le Seigneur. C'était leur responsabilité, c'était leur job. Et un peu plus loin dans 1 Chronique, toujours au verset 37, David laissa là devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel Asaph et ses frères, afin qu'ils fussent continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Ça veut dire que 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans la cité de David, dans la tente de David, il y avait une louange qui montait à Dieu. Et cette louange, elle plaisait à Dieu, et quelque part, de cette tente où il y avait la louange et l'adoration, la gloire de Dieu se répandait, non seulement sur Jérusalem, mais sur tout Israël. Vous n'imaginez pas l'impact que l'Église a dans une cité. Mais pour ça, il faut qu'on soit dans la communion fraternelle et dans l'obéissance à Dieu. Il faut qu'on apprenne à louer le Seigneur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, pas tout le monde. Il y a des gens qui sont appelés à ce service-là. Et j'aime beaucoup parce qu'aux États-Unis, dans certaines maisons de prière, il y a des gens qui sont payés pour louer le Seigneur. Alors, vous allez dire, c'est pas possible, ça. C'est pas un job. Ben si, c'est un job. Parce que quand tu loues le Seigneur, déjà, c'est un gros boulot de te tenir 7 heures ou 8 heures ou 2 fois 4 heures ou 4 fois 2 heures à louer le Seigneur. Et quand tu fais ça, tu n'es pas au travail, tu ne gagnes pas ta vie. Tu ne peux pas nourrir ta famille. Bien, aux États-Unis, les chrétiens, ils ont compris, mais ceux qui sont attachés à la louange, qui sont attachés à ce service de louange, eh bien, on va les payer, non pas pour qu'ils fassent un boulot, mais pour qu'ils soient dégagés de toute la servitude, de la contrainte de gagner un salaire. Parce qu'on sait que si tu vas au travail, ben, tu ne peux pas être dans l'attente d'assignation à louer le Seigneur. Voilà. Alors nous, en France, on a des progrès à faire. Et ces progrès, eh bien, on les fait petit à petit, pas à pas. Et c'est pour ça que chaque jour, dans l'Église, il y a des gens qui viennent prier. Il y a des gens qui viennent louer. Et c'est important parce que quand ces choses se font, on est en train de monter les piquets de la tente, d'étendre l'étoile de bénédiction, non seulement sur l'Église, mais au-delà de l'Église, sur la cité. On est en train de faire des choses qui vont au-delà des murs de cette Église. On est dans une place de bénédiction et on est en train d'envoyer la gloire de Dieu sur la cité. Et si on veut que les choses bougent et que les choses changent, il faut qu'en premier lieu, nous soyons un. Il n'y ait qu'une unité de cœur avec le Seigneur et entre nous. Et on se doit d'entretenir une véritable relation avec le Seigneur, mais les uns avec les autres parce qu'on va être rempli de l'Esprit de Dieu. Et vous savez ce qui nous donne l'Esprit de Dieu ? Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. C'est vraiment important. Et dans Ésaïe 11, on a un autre descriptif qui nous dit que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et celui qui est rempli de cet esprit-là, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne juge point sur l'apparence, il ne se prononce point sur un oui-dire, mais il juge avec équité et il prononce avec droiture, il se prononce avec droiture sur les malheureux. Et cet esprit qui est libéré, il a été donné à Jésus. Et Jésus nous a soufflé son esprit sur nous et en nous. Esprit de conseil et de sagesse, esprit de force, d'intelligence. Tu as tout ça. Amen. C'est pour ça que tu attrapes tellement de poissons. Chacun d'entre nous, on a ce même esprit. Il faut qu'on commence à aller dans l'esprit contraire à ce monde, à ce que l'ennemi voulait. Je vous ai prêché un message il y a un an à peu près sur Paul et Silas qui étaient emprisonnés, qui étaient battus de verges, qui étaient enchaînés dans la prison. Et la première chose qu'ils ont fait, ils se sont mis à louer le Seigneur. Alors qu'on pouvait penser, et on le pense encore aujourd'hui, qu'ils étaient dans le temps de Dieu, qu'ils accomplissaient les œuvres du Seigneur, qu'ils étaient au bon moment, avec les bonnes personnes, en faisant les meilleures choses que Dieu leur demandait. Et les voilà qu'au lieu d'être dans un espace de gloire, de liberté et de grâce, ils sont attrapés, emprisonnés, battus, enchaînés, isolés, mis à part. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas écouté ce que leur sens leur disait. Ils se sont mis à louer le Seigneur et ils ont brisé l'isolement dans lequel le diable voulait les mettre. Qu'est-ce que le diable voulait faire avec eux ? Alors, je reviens un petit peu au début, là. C'était de les déstabiliser par les souffrances, l'adversité et l'isolement. Il voulait qu'ils soient centrés sur eux-mêmes. Ils fassent une introspection. Qu'est-ce qu'on a dû commettre comme péché pour sortir du plan de Dieu et être puni ? Mais pas du tout. Ils avaient tout fait bien, mais ils étaient face à l'adversité. La deuxième chose que le diable a dû mettre en route entre eux, c'est de s'accuser l'un l'autre. Moi, j'étais juste, mais lui, est-ce qu'il avait bien rempli sa part ? Silas, t'es sûr que t'as pas péché ? Mais non, Paul, moi, j'ai pas péché, je suis resté droit devant le Seigneur. Et toi, Paul, t'es sûr que t'as pas fait une embrouille, là ? Avec ses frères, ben, Paul, non. Tu vois, le diable, il veut briser la communion spirituelle pour isoler et empêcher qu'il y ait cette force qui est entre nous. C'est de la manipulation, c'est le maître du mensonge, où il voulait les centrer sur leur échec et sur leur peur. Et la puissance de Dieu, elle est là pour nous délivrer de toute culpabilité. Le diable, il a toutes sortes de stratégies pour nous enfermer dans l'isolement. Mais Dieu, il a un immense amour pour nous dire, quoi que tu aies pu faire, j'ai payé le prix. Et sur la croix, ses dernières paroles, c'était, tout est accompli. Donc, si tout est accompli et que tu viens à moi, eh bien, tu es lavé, tu es pardonné, tu es racheté. Et tu peux donc me louer. Amen. Et tu peux rentrer dans la louange. Et quand tu le fais, et c'est ce qui s'est passé pour Paul et Silas, quand tu le fais, il y a un ébranlement. Il y a un ébranlement. La terre a tremblé. La prison, elle ne s'est pas effondrée, mais elle a été un petit peu largement cassée. Les portes se sont ouvertes. Les chaînes sont tombées des fers de tous les prisonniers. Ça veut dire qu'il y a un espace de liberté. Et Paul et Silas, simplement par leur chant, par leur communion fraternelle, ils ont ouvert cet espace de liberté pour tous les prisonniers. Et chose étonnante, c'est qu'aucun des prisonniers n'en a profité pour filer. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous dans l'attente de ce que Dieu voulait faire et voulait dire. Et Paul et Silas ont commencé à sauver la vie du seul qui voulait se tuer, c'était le geôlier qui avait enfermé tout le monde. Et celui qui a enfermé tout le monde, le geôlier, d'un seul coup, il a changé de vêtements, il est devenu maison d'accueil, maison d'hôte. Il a pris Paul et Silas, il a dit « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ben, intervention de Jésus, mon gars. » Ah ben venez chez moi, je vais vous donner à manger, je vais laver vos plaies, je vais vous panser. Il a fait tout l'inverse que le geôlier doit faire. Il les a invités chez eux pour un repas d'amis, un dîner d'amitié. Voilà, cool. Et il a changé son cœur. Ça veut dire que même vos pires adversaires, même vos pires ennemis, peuvent devenir d'un seul coup des gens transformés par la gloire de Dieu. Le tout, c'est que vous teniez ferme. Le tout, c'est que vous marchiez dans l'obéissance. Le tout, c'est que vous ne lâchiez pas le bâton d'autorité que Dieu a mis dans votre temple. Que vous mangiez la manne qui est dans ce temple. C'est-à-dire que vous mangiez la parole de Dieu. Que vous vous nourrissiez de cette parole. Et dans le bâton d'autorité, j'ai dit, il y a trois choses. Les feuilles, les fleurs et le fruit. Les feuilles, elles vous servent à la guérison. Les fleurs, quelque part, c'est le signe que la gloire de Dieu se manifeste, que la vie de Dieu est en action. Et le fruit, ça veut dire que déjà vous pouvez récolter du fruit dans vos vies si vous marchez dans l'obéissance, que vous allez voir les choses se transformer. Et la troisième chose qui est dans le coffre, on a dit, c'est quoi ? Le bâton, la manne et... La loi, la parole. Et c'est important qu'on marche conformément à ce que Dieu nous a enseigné. Donc il y a une puissance dans la louange. Mais il faut qu'ensemble, on découvre comment se mettre en ordre de marche. Il faut qu'ensemble, en communion spirituelle, on commence à reconnaître les talents que nous avons pour la louange, pour l'intercession. Pour prier les uns pour les autres, pour l'évangélisation. Et qu'on commence à prier, « Oh, je vois celui-là, c'est un Asaph. » Allez, au hasard, tiens, on va mettre un David ou un Jean-Baptiste. Celui-là, c'est un Asaph, c'est un chantre de l'Éternel. On va vraiment prier pour qu'il prenne sa place et qu'il ait le bâton d'autorité d'Asaph et qui commence à rentrer dans un ministère grandissant. Parce qu'à chaque fois qu'il va se mettre derrière son instrument, il va libérer une onction parce qu'il y aura la prière des saints autour de son ministère, autour de son service. Il y aura la communion des saints. Il y en a un autre, ben, ça va être un gars qui a du talent dans les doigts. Vous savez, il y a des gens, ils ont des mains en or. Hein, et ils savent tout faire. T'as une panne chez toi, dans la voiture, il arrive, il trouve la panne, il répare. La machine à laver fuit, il trouve la panne, il répare. T'as un truc à réparer, il répare, et tu dis, mais comment il sait tout ça ? C'est Dieu qui lui a donné ce talent. On va prier pour lui, pour que partout où il aille, ce talent se répande, et que la gloire de Dieu soit libérée. On a des stratégies pour faire face à l'adversité, mais ce qu'on manque, c'est la reconnaissance et l'organisation. Et il faut vraiment qu'on s'organise les uns les autres pour nous encourager à la prière, à la louange, au service dans lequel on doit en être. Moi, je prie souvent pour Joao, parce que je sais que quand il arrive devant sa machine, eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Je ne veux pas dire que, vous savez, un peu comme dans Le Gendarme se marie, il y a des... Mais, quelque part, il y a vraiment une onction qui est là, parce que ses collègues ont les yeux fixés sur Joao. Ils disent, tiens, aujourd'hui, il ne sourit pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il manque quelque chose dans le travail. Et alors, Joao, il peut être réveillé par le Saint-Esprit. Ah, je vais m'encourager, je vais chanter un cantique. Alors, il fredonne un cantique, parce qu'il ne veut peut-être pas chanter à voix haute les paroles. Et puis les autres, ah, ça y est, ça va mieux. Parce qu'ils ressentent un espace de liberté. Et tous, on est acteurs de la libération de l'action de Dieu. Alors si ensemble, dans l'Église, on commence à saisir la vision que Dieu veut relever la tente de David, que Dieu veut relever la tente de David, comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres, qu'on commence à avoir une louange forte, qu'on reconnaît nos chantres, qu'on prie pour eux, qu'on reconnaît nos sacrificateurs, qu'on prie pour eux, qu'on reconnaît nos évangélistes, qu'on prie pour eux, qu'on reconnaît ceux qui sont au travail et qui ont des mains en or, on prie pour eux, à ce moment-là, il y a des choses qui vont changer. Il va y avoir des chaînes qui vont tomber. Il va y avoir des portes qui étaient fermées qui vont s'ouvrir. Il va y avoir des gens qui vont être libérés, des gens qui vont être guéris. Et tout ça, ça va se faire parce que nous nous mettrons en route les uns avec les autres en suivant le Seigneur. Donc, la conclusion de ce message, c'est, eh bien, soyez vigilants. Laissez rentrer l'arche de Dieu dans vos maisons. Veillez sur ce trésor qui est en vous pour le réveiller dès le matin. Esprit de force, de conseil, de sagesse, de puissance, de guérison. Revêtez-vous. C'est aujourd'hui la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Et qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Et qu'elle soit pour eux un sujet de joie. Parce que tout ce qu'on reçoit de Dieu, ce n'est pas pour nous, c'est pour eux, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et qui vous permettent, tout comme à moi, de rentrer dans cette révélation. Amen, parce que j'en ai vraiment besoin. Donc vous pouvez tous vous lever et prier pour moi. Je vous autorise maintenant. Et après, on va prier les uns pour les autres.